Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série que j'estime la plus importante, qui concerne la prière. Nous en sommes à l'étude numéro 29 et nous allons voir ensemble quatre exemples concernant la prière pour les malades. La parole de Dieu nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Et ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, car la prière de la foi sauvera la malade. » Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, alors ils lui seront pardonnés. Surtout, confessez vos péchés. Confessez-les, vous pouvez le faire tout seul, ou les uns aux autres, en priant les uns pour les autres, et ceci afin que vous soyez vraiment guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est dans Jacques, chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Combien de fois, au cours de son bref ministère ici-bas, notre Sauveur n'a-t-il pas exaucé les prières des malades qui l'invoquaient pour être guéris? Et avec quelle inlassable bienveillance il exauça de telles supplications et accorda à ces malheureux la guérison tellement attendue. Le lépreux, dans Saint Matthieu chapitre 8, verset 2, et le centurion de Capernaum, aussi dans Matthieu chapitre 8, mais verset 6, le chef de la synagogue, Jairus, dont la fille était à l'agonie et mourut peu après, Saint Matthieu chapitre 9 verset 18. La femme à la perte de sang qui timidement toucha le bord de son vêtement, Matthieu chapitre 9 verset 20. Et sans oublier les deux aveugles qui le suivirent en s'écriant « Ô fils de David, aie donc pitié de nous !» Matthieu 9, verset 27. Et combien d'autres cas pourraient être cités? Oui, notre évangile est rempli de prières pour la guérison et Jésus-Christ répondit favorablement à chacune d'elles, sans exception aucune. Combien de fois nous est-il dit que la foule entourait, apportant leurs malades pour qu'il les touchât et les guérît? Tout le ministère terrestre de Jésus-Christ démontre abondamment ses compassions infinies envers tous ceux qui souffrent, et nous le présentons comme prenant son plaisir à guérir les malades et à exaucer leur prière. Premièrement, la maladie constitue un sujet de prière légitime. Dans Saint Jacques, chapitre 5, verset 13, nous avons à ce sujet une instruction très précise. Là, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. » Il est donc normal de prier quand on se trouve dans la peine et la souffrance. Au verset suivant, l'apôtre poursuit. Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Et ceci en l'oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Il est donc bien clair que la maladie est une occasion de prière. Il nous est tout à fait ordonné, Oh oui, de prier quand nous nous trouvons dans une épreuve quelconque, et les anciens de l'Église doivent être convoqués officiellement pour prier en faveur du croyant qui est malade. Il nous est dit, en outre, au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Bien que les malades puissent prier pour eux-mêmes, cela va sans dire, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin de 30 personnes autour de vous. Vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes et prier sincèrement. Et il est bon également d'inviter les anciens de l'Église, bien sûr, et si c'est possible, de le faire avec eux. Et les chrétiens sont exhortés à confesser leurs fautes les uns aux autres et à intercéder les uns pour les autres pour être guéris. Alors même que les Écritures saintes ne contiendraient aucune promesse qui serait spécifique pour la guérison, tant d'autres passages nous autorisent à prier pour tout ce qui nous est nécessaire. Le tout, je dis bien le tout, ce que vous demanderez, de Saint Marc chapitre 11 verset 24, ce tout comprend sans nul doute également la guérison de nos corps, comme aussi la promesse de Saint Jean chapitre 14 verset 14, où il est dit « Si vous demandez quelque chose en mon saint nom, je le ferai », et bien d'autres passages semblables qui nous autorisent à nous adresser à notre Père Céleste pour l'ensemble de nos besoins. D'autre part, n'oublions pas que la maladie est sans contredit une attaque, non pas des anges et des archanges, mais surtout de Satan et de ses démons. La maladie de Job lui est survenue par l'action directe de l'adversaire sur son corps. Job chapitre 2, versets 4 à 7. En guérissant la femme courbée, Jésus-Christ déclara qu'elle avait été pendant 18 ans, vous l'avez bien entendu, pendant 18 ans, sous le joug, non pas d'un ange bienfaisant, mais du diable. Saint Luc, chapitre 13, verset 16. Quant à l'écharde de Saint Paul, il nous dit lui-même que c'était un ange, non pas un ange de l'Éternel, mais un démon de Satan. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Ce sont des anges déchus, les démons. Donc la maladie et les affections corporelles de tout genre viennent, bien entendu, de Satan. Dieu les promet, et il les promet pas, excusez-moi, mais Dieu peut permettre, voilà ce que je devais dire, aussi je le répète, Dieu peut permettre pour un certain temps certaines choses pour nous éprouver, tout comme il permet, hélas, le péché et ses tristes conséquences. Donc, il arrive souvent que Dieu intervienne souverainement pour faire contribuer à sa gloire, tellement, absolument à sa gloire, un moment de maladie par ses enfants. Mais d'une manière générale, on peut affirmer que la maladie émane de l'adversaire, vous l'avez bien entendu, et que c'est bel et bien l'ennemi qui en est l'auteur. S'il en est ainsi, alors les enfants de Dieu n'auraient-ils pas le droit d'en appeler à leur Père Céleste pour qu'il les délivre de ces cruelles attaques sur leur corps? Sans nul doute, la nature même du mal nous permet de conclure que nous devons en faire un sujet de prière et attendre de notre Dieu la guérison. Bien entendu, avec toute la pollution qu'il y a, ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. C'est le mal, c'est notre égoïsme, c'est notre non-respect total de la nature. Et bien sûr, nous en écopons les conséquences. Et les cancers en sont une des conséquences. Et là, ce n'est pas la faute, ni, on peut dire, je voulais dire par là, ce n'est pas la faute ni de l'un ni de l'autre, mais bel et bien de nous. Il faut aussi que nous sachions que nous jouons un rôle ici-bas et que nous avons une responsabilité et donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne devrions pas faire n'importe quoi. Le seul fait qu'il est notre Père Céleste, un Père tendre et totalement rempli de compassion envers ses enfants qu'il a rachetés à un si grand prix, suffit totalement à justifier notre démarche auprès de lui pour la délivrance de tous nos maux. La Bible nous dit dans Saint Matthieu chapitre 7 verset 11 « Si donc méchant comme vous l'êtes, c'est ce que a dit Jésus-Christ, et que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus de raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Le soulagement de nos douleurs, la guérison de nos maladies, la force renouvelée pour notre tâche quotidienne, ce sont là de bonnes choses que nous avons le droit de réclamer à notre Père Céleste. Son amour paternel et sa miséricorde sont un argument suffisant pour nous autoriser à croire qu'il se soucie de nos souffrances et nous invite à avoir recours à lui à l'heure de la maladie. J'oublie de vous dire que je connais quelques vignerons ainsi que des paysans qui sont appelés à tellement mettre des fongicides, des pesticides à outrance pour gagner davantage, parce que les prix baissent toujours plus, c'est une compétition mondiale et féroce, que, évidemment, ils écopent vraiment des maladies terribles, dont le cancer numéro 1. Et là, c'est pas le diable directement, vous l'avez bien compris, et il se peut que des frères qui doivent faire un travail pareil, souvent mal protégés, eh bien, on a beau de prier pour eux, la mort est au bout, et parfois rapidement. Mais il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas donner la faute à Dieu. Il faut bien faire la part des choses. Nous sommes à la fin de cette dispensation de la grâce, qui malheureusement touche à sa fin, dans un environnement qui est totalement différent de ce qu'il y avait seulement, il y a 30 ans. Et 30 ans, ça n'a rien à faire avec 3-4 générations, on est bien d'accord. Nous avons vraiment fichu en l'air toute la planète. Et encore l'autre jour, c'est pas seulement aux États-Unis avec ce pétrole, mais il n'y a pas plus de 2 jours en Hongrie, avec cette catastrophe épouvantable qui va détruire tout sur son passage et tout meurt. Et ils en auront, croyez-moi, pas comme ils prétendent que pour quelques années, ils en auront peut-être pour plus d'un siècle à ce que ça puisse être totalement nettoyé et renouvelé, et encore. Donc, nous jouons une grande part ici-bas, dans notre environnement, et il ne faut pas nous étonner qu'il y aura des maladies, qu'il y a déjà des maladies qui sont incurables. et que ça n'a rien à faire avec la faute à Dieu. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, car c'est notre devoir. Et ceci même si quelqu'un a été empoisonné par l'environnement à outrance. Eh bien, au moins, nous pouvons prier pour le salut de son âme. Car ça, c'est encore le plus important de tout, parce que c'est valable pour l'éternité. Chers amis, les chrétiens doivent donc prier dans le secret quand ils sont malades. Mais ils devraient également avoir recours à leur pasteur et à leurs sœurs chrétiennes qui ont aussi un grand rôle à jouer. Et ça, c'est une vérité absolue. Et les anciens, ils peuvent aussi aider, intercéder. Il est parfaitement légitime de prier pour les malades dans une réunion publique, pourvu qu'on n'en fasse pas un dada, associé parfois à de fausses doctrines ou des doctrines fanatiquement exagérées. Donc les chrétiens devraient également prier les uns pour les autres, nous l'avons compris, et simplement dans leur appartement, dans leur maison, en se confessant mutuellement leurs fautes, mais nous pouvons les confesser surtout à notre Seigneur, ce qui est aussi merveilleux. Mais nous pouvons faire, comme la Bible dit, confesser mutuellement nos fautes afin d'obtenir la guérison. Un évangéliste raconte que pendant bien des années, il avait été fréquemment malade des amygdales. Et tous les hivers, il souffrait terriblement de la gorge et il avait la fièvre. On peut se sentir prêt à rendre l'âme avec cela, sans être vraiment gravement atteint. Le docteur de la famille conseilla fortement l'opération des amygdales. Moi, j'ai dû y passer deux fois, c'est curieux, mais c'est ainsi. Et il a fini par s'y résigner. Le jour de l'intervention chirurgicale a été fixé. Or, ce matin-là, il a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 16, la 39e année de son règne, et il dit « Asa a eu les pieds carrément malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas du tout l'Éternel, mais il consulta les médecins. Aussi, Asa se coucha avec ses pères. » Comme l'évangéliste n'était pas du tout décidé à se coucher tout de suite avec ses pères, excusez-moi de ma plaisanterie, il a pris la décision de chercher Dieu tout d'abord, et ceci avant d'avoir affaire aux médecins. Donc, moi, je dois reconnaître que j'ai fait moins bien, puisqu'on m'a dû opérer les amygdales 2 fois, parce que la première fois, ça avait été mal fait. Donc, ce cher malade confia à sa chère épouse qu'il avait péché. Et sans en avoir fait un sujet de prière, il a automatiquement, selon sa conscience, fait quelque chose qui était bien et nécessaire. Et alors là, il a pu remettre à plus tard cette opération projetée, car il a pu se mettre à prier ardemment pour sa gorge. Et croyez-moi, peu après, il a eu l'occasion de s'entretenir avec un docteur qui était un véritable chrétien. Et il dit qu'en suivant son conseil, il n'aurait pas besoin d'être opéré. Il suffirait de se mettre au jus de fruits, aux légumes verts, etc. Et d'éviter les fritures, par exemple, et les pâtisseries. Aussi, il se rangea à son avis et jamais plus il a eu à souffrir de la gorge. Combien de fois, chers amis, n'avons-nous pas commis le péché du roi Assa, qui dans sa maladie ne rechercha pas du tout l'Éternel, mais directement les médecins. Cela ne veut pas dire que consulter le médecin, il faut bien que je vous rassure, que ce soit un péché, mais pas du tout. Mais ce qui est mal, c'est de ne pas regarder en tout premier lieu au Seigneur, c'est de se confier en l'homme au lieu de se confier en Dieu, qui n'est pas la meilleure des choses, surtout si on le fait sans jamais prier. La Bible n'y dit pas expressément que ce soit un péché de s'adresser au docteur ou de prendre des remèdes, pas du tout. En certaines circonstances, mais nous devons le faire, moi aussi, mais nous pouvons être assurés que Dieu est attristé quand il voit ses enfants se tourner spontanément vers le secours humain et vers les remèdes au lieu d'avoir en tout premier lieu, c'est ça surtout, en tout premier lieu, nous devons avoir recours au Seigneur Jésus-Christ à l'heure de la maladie. La première chose à faire donc, chers amis, quand nous sommes malades, c'est évidemment de prier. Vous savez, j'ai vu dans le journal qui s'appelle La Vie protestante, une professeure de théologie pseudo-chrétienne de l'université, je ne dirais pas dans quelle ville et quel pays, donner des cours sur la vie spirituelle. Et dans le même journal, je dis bien un journal chrétien, il y a une autre pseudo-chrétienne qui donne des séminaires sur Dieu et Christ. Et dans son cabinet ésotérique flottent des odeurs de bougies parfumées et des cristaux au pouvoir de mère nature. Tout cela, chers amis, sont soi-disant des bienfaits thérapeutiques, évidemment. Et elle est aussi professeure atypique de cette université. Or, dans ce très, très honorable journal chrétien, on fait l'éloge d'un guérisseur qui guérit par le secret. Oh, c'est merveilleux. Je crois quand même que vous avez compris que c'est pas tellement biblique. Même pas du tout. Et évidemment, par le secret, il guérit des malades, des brûlés, etc. Une autre guérisseuse ethnologue célèbre a plus ou moins les mêmes théories et dans le même journal, on fait l'éloge du dieu créole, l'anthropologie et la métaphysique. Voyez-vous, je préfère me concentrer sérieusement sur les textes des Saintes Écritures, car je sais une chose absolument certaine et sûre absolument, que Dieu me jugera très sévèrement si je vous induis en erreur. Et croyez-moi, je prends tout cela très au sérieux, comme vous pouvez le constater. Dans une réunion de prière, nous avions un jour des témoignages édifiants quant à la guérison divine. Certains avaient été guéris après avoir dépensé des sommes considérables à l'hôpital et passé de longues semaines dans la souffrance. D'autres avaient été guéris après avoir été déclarés incurables par les meilleurs docteurs. Ces témoignages ont été en bénédiction à plusieurs. À la fin de la réunion, une chère vieille chrétienne a dit « Si jamais je tombe malade, et que les docteurs ne puissent plus rien faire pour moi, ni les remèdes, alors là, je vous demanderai à vous de prier pour moi. » Oui, ça c'est bien le cœur humain, hein ? N'est-il pas vrai, chers amis ? On s'adresse, comme vous l'avez compris, au Seigneur, après avoir essayé tous les moyens imaginables, même le secret. hein, même le secret. Et oui, et on s'adresse au Seigneur seulement après avoir essayé tous ses moyens. Mais comme il serait, il me semble, beaucoup plus heureux si nous venions à lui en tout premier lieu, et ensuite il nous en donnerait la liberté et nous pourrions user de tel ou tel remède et donner toute la gloire à Dieu pour notre guérison. Ou s'il nous donnait la foi, et oui, la foi tout simplement, hein, pour saisir carrément la délivrance sans aucune intervention humaine. Alors là, nous pourrions recevoir de sa main cette précieuse bénédiction et lui en rendre grâce à lui seul. Sans nul doute, il y a de nombreux croyants qui sont malades et qui ne le seraient pas si seulement ils étaient venus à Dieu dans le nom de Jésus-Christ selon la prière indiquée dans sa sainte parole. Il n'est pas sans doute, pas toujours, dans la volonté de Dieu, il est vrai. Je répète, il n'est sans doute pas toujours dans la volonté de Dieu de guérir les malades. Mais c'est habituellement, soulignons cela, dans sa volonté de le faire. Et quoi qu'il en soit, nous devons dans tous les cas prier dans ce sens-là. Dans les cas exceptionnels où ce n'est pas sa volonté d'accorder la guérison, le Seigneur le fera savoir au cœur soumis et humilié de son enfant. Mais en attendant, notre affaire à tous, c'est évidemment de prier. De prier. Ça, c'est absolument important. Deuxièmement, la prière pour les malades est normale pour la présente dispensation. Car aucun chrétien initié ne peut nier la puissance de Dieu pour guérir le corps comme pour sauver l'âme du pécheur. Quiconque croit au miracle du Nouveau Testament admettra sans contredit la puissance de guérison de notre Dieu. Oui, c'est un fait probant que Dieu peut vraiment guérir. Il l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui, et cela en réponse à la prière de la foi. Il guérit également en dehors de toute prière par les forces récupératives de la nature, ou bien, comme ce fut le cas pour le roi Ézéchias, par l'emploi de remèdes. Il a bien souvent guéri en réponse à la prière du malade lui-même ou de ses frères venus prier pour lui. Les témoignages dignes de foi dans ce domaine sont trop nombreux et trop évidents pour se permettre d'en douter. Il y a des docteurs en théologie, soi-disant très avancés, qui se plaisent à découper la Bible en diverses dispensations, à distinguer entre Israël et l'Église. Ils affirmeront, par exemple, que les bénédictions d'ordre physique et matériel appartenaient à Israël, tandis que les bénédictions spirituelles sont le privilège exclusif de l'Église, bien que la Bible n'affirme rien du tout de semblable. Certaines personnes affirment que l'épître de Jacques était adressée à des croyants juifs seulement et ne peut donc s'appliquer aux chrétiens. Mais Dieu nous dit explicitement dans sa sainte parole que tout ce qui s'applique aux croyants parmi les juifs concerne également les non-juifs, puisque en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, selon Galates chapitre 3, verset 28. Voyez-vous, cette façon de déchiqueter le Nouveau Testament et d'en distribuer une partie aux juifs et l'autre aux chrétiens est sans garantie aucune, et même en opposition totale, donc flagrante, avec l'enseignement général des Saintes Écritures. Il y a même des extrémistes, oh oui, et je peux vous dire que j'en ai vu, qui voudrait nous dérober la plus grande partie du Nouveau Testament et nous laisse que les derniers épîtres de l'apôtre Paul. Mais c'est là un dada qui n'a aucun point d'appui dans la Bible elle-même. Loin de dispenser droitement la parole de la vérité, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 15, ils ne font que la mutiler et frustrer carrément le peuple de Dieu d'une grande partie de la révélation divine qui leur appartient de droit. Oui, il est vrai que l'épître de Jacques est adressé aux 12 tribus dans la dispensation, mais cet épître étant la toute première en date, le fait est qu'il n'existe encore à cette époque, ou qu'il n'existait encore à cette époque, que des chrétiens issus du judaïsme. Et tout comme les épîtres aux Galates et aux Romains s'adressaient aux croyants de Galatie et de Rome, le message divin qu'elles contiennent s'adresse encore à nous qui sommes les descendants de ces premiers chrétiens. Il n'y a fort heureusement aucune équivoque possible quant à ceux auxquels s'adresse, ou si vous voulez, ce message de l'apôtre Jacques, car il nous parle ici des anciens de l'Église et non des rabbins de la synagogue. Donc c'est un message adressé aux chrétiens, et notons-le bien, aux chrétiens des derniers temps. Voir Jacques, chapitre 5, verset 3, où il est dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Il nous dit encore « Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ça, c'est bel et bien une preuve que c'est pour la fin de notre dispensation et pour la prochaine dispensation qui et pour très bientôt, si elle n'est pas déjà entamée. Donc, par quatre fois, au cours de ce chapitre 5, il est fait allusion aux derniers jours et au retour du Seigneur. Il est donc bien clair que c'est pour ces temps de la fin que le Seigneur nous donne ses ordres et ses promesses en ce qui concerne la guérison des malades. Donc, que personne ne s'avise de vous dérober le livre de Jacques. Frères et sœurs, soyez certains que ce livre est bien pour nous, car il appartient de droit aux croyants du présent siècle. Troisièmement, la prière de la foi sauvera le malade. Soyons donc sûrs de bien comprendre les conditions de Dieu pour la guérison des malades. Il nous dit ici que la prière de la foi sauvera le malade. Chers amis, il ne s'agit pas d'assister à une certaine campagne de réunion pendant 3 jours ou de se réciter avec persistance une certaine formule consacrée, mais c'est la prière de la foi qui sauvera le malade, non pas une certaine excitation charnelle qui le galvanisera pendant un temps et lui rendra ses activités pour provoquer ensuite une terrible réaction aboutissant fréquemment pour la malheureuse victime. La malheureuse victime peut-être d'un charlatan spirituel. Parfois même, ça peut mener à l'asile d'aliénés ou même directement au cimetière. On a vu des cas semblables avec un serviteur de Dieu respectable et renommé qui a prié pour une malade qui avait un diabète très avancé. Et il a dit « Jetez tous ces remèdes, faites-le par la foi et vous verrez que vous serez guéri. » Or, quelques jours après, elle était morte. Je ne vais pas commencer à faire ce qu'il ne faut pas faire, de critiquer. Nous ne devons pas critiquer. Mais simplement, comme je l'ai aussi vu, de dire à des gens qui ont des graves problèmes de vue pour pouvoir lire et de leur dire simplement de jeter leurs lunettes par la foi. Moi, je vous dis franchement, je ne ferai jamais une chose pareille. Notons bien, chers amis, pour éviter toute critique, notons bien tout d'abord que l'huile par elle-même, elle ne produit aucunement la guérison, elle n'est pas ordonnée ici en tant qu'étant un remède. L'huile est simplement le symbole du Saint-Esprit, qu'on le comprenait bien, et c'est à ce titre qu'elle est appliquée aux malades. Ce n'est pas une médecine que Dieu appliquerait indifféremment à tous les cas qui se présentent. Évidemment non. Dans l'ancienne alliance, les rois, les sacrificateurs et les prophètes étaient oints d'huile, et cela est vrai, en signe de leur mise à part, de leur consécration au service de l'Éternel. De même, les vases du tabernacle recevaient cette aspersion d'huile en signe de leur consécration au service divin. Ainsi, tout homme, toute femme qui veut se consacrer au service de Dieu doit être revêtu de cette sainte onction, et l'huile n'est pas autre chose que le symbole du Saint-Esprit. Tout chrétien désirant la guérison doit donc reconnaître que c'est au Saint-Esprit qu'il appartient de gouverner et d'utiliser son corps à sa guise comme un instrument dédié au Seigneur. Donc, appliquer l'onction d'huile en vue de la guérison signifie simplement que le malade est consacré à Dieu et que nous nous confions au Saint-Esprit pour la guérison, si telle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de la guérison, s'il s'agit vraiment de guérison divine. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 11, « Si l'Esprit de celui qui a rassasié Jésus-Christ d'entre, qui a ressuscité, excusez-moi, je répète, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, en nous, alors il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en vous. » C'est un verset merveilleux et très important que je vais vous répéter. Romains chapitre 8, verset 11, il est dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité, donc le Père Céleste, Dieu le Père, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, chers amis, en moi, alors il rendra aussi la vie à vos corps, à nos corps mortels, par son Saint-Esprit qui habite en vous, en nous. » Et ceci s'applique, selon le contexte, à notre future résurrection corporelle. Cela est évident, mais cela nous montre également la puissance vivifiante du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos corps mortels. Donc, d'après ce passage de Jacques 5, verset 13, et aussi au verset 16, « Confessez vos péchés, nos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, et ceci afin que vous soyez guéris. » Et là, nous comprenons que la prière pour la guérison n'est pas nécessairement accompagnée de l'onction d'huile à chaque coup. Et cette action recommandée au verset 14 est bienfaisante en certaines circonstances, certes. Mais ne croyons pas que ce soit uniquement l'huile elle-même qui opère la guérison, évidemment non. Et c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. L'onction d'huile, chers amis, peut servir à encourager, à fortifier notre foi, car elle nous rappelle le fait que l'Esprit de Dieu habite dans le corps du malade et qu'en obéissant ainsi à ses directions précises, et ceci selon les Saintes Écritures, nous pouvons nous attendre à recevoir l'exaucement. Cependant, que l'huile soit employée ou non, c'est toujours la prière de la foi qui constitue le facteur important dans la guérison. Il n'est fait aucune mention dans les Saintes Écritures de cette onction des malades, sinon par les anciens, et surtout par les disciples dans leur tournée qui est mentionnée dans Saint Marc chapitre 6 verset 13. Mais n'importe quel enfant de Dieu, évidemment, a le même droit de prier pour sa propre guérison comme pour celle de ses amis. Que vous soyez une femme ou un homme, chrétien, ça va sans dire. Il y a des évangélistes modernes qui font des réunions spéciales, ce qui n'est pas défendu, au contraire, des réunions de guérison divine. Où ça va moins bien, c'est quand ils affirment que c'est toujours absolument la volonté de Dieu de guérir, et ils rejettent totalement le blâme sur les malades pour excuser leur insuccès. J'ai vu cela avec une dame qui avait la sclérose en plaques. Étant donné que sa prière sur l'estrade devant des milliers de gens n'a pas été un succès, il a simplement rejeté la faute sur cette pauvre malade. Le blâme, comme la Bible nous dit, le blâme. Cela, j'oserais jamais le faire, c'est affreux, c'est inhumain, ça manque totalement de compassion, oh là là. Non, n'entrons pas là-dedans, écartons-nous tout de suite. Donc, chers amis, si la personne n'est pas guérie, ces merveilleux serviteurs de Dieu déclinent tout simplement toute responsabilité en déclarant qu'elle manque de foi ou que quelques interdits, va savoir, dans sa vie, dans ma vie, est la cause de tout. Mais notons bien que c'est la prière de la foi de l'intercesseur qui est le facteur déterminant dans la guérison divine. Je dois prendre cela plus que sérieusement. Si donc il est vrai que ce soit invariablement la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens, ce sont ces guérisseurs qui sont à blâmer pour n'avoir pas su offrir en leur faveur la prière de la foi qui sauvera le malade. Non, non, chers amis, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir les malades, mais quand les anciens sont appelés dans ce but, c'est leur foi qui doit garantir la guérison demandée. Or, la foi est un don de Dieu. Là, il est donc question dans Romains chapitre 12, verset 6, de dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don ou que celle qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 et 9, à l'un, il est dit, à l'un est donné par l'Esprit Saint une parole de sagesse, à un autre ou une autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre ou une autre la foi par le même esprit, et c'est donc le Saint-Esprit qui communique la foi. Là où la parole de Dieu nous présente une promesse précise, ce serait un péché que de ne pas le croire. Par exemple, tout pécheur perdu peut se confier en Christ instantanément et recevoir le salut. Mais pour tout problème personnel qui ne correspond à aucune promesse particulière dans la Bible, nous devons dépendre du Saint-Esprit pour nous révéler la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit nous donne la foi pour la guérison, alors notre prière pour les malades sera sûrement exaucée. Mais s'il n'est pas dans la volonté de Dieu de guérir dans tel ou tel cas, ce que le Saint-Esprit ne nous donne pas par la foi nécessairement, n'est-ce pas ? Alors nous devons, il est totalement vain, totalement inutile de vouloir absolument la produire, cette foi, en nous, artificiellement ou avec des efforts surhumains, on peut dire par des efforts de volonté. Ça, c'est pas bien. Je crois que ça vaut la peine de répéter ce que je viens de dire, pour autant que je m'en souviens. Si le Saint-Esprit nous donne la foi pour la guérison, alors notre prière, ma prière, pour les malades sera sûrement exaucée. Mais, évidemment, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu de guérir dans tel ou tel cas, et que le Saint-Esprit ne nous donne, me donne pas toute la foi nécessaire, il sera vain de vouloir la produire en nous, en moi, par des efforts de volonté. Quand Dieu donne la foi, il accorde aussi la guérison. Si dans un cas particulier, il n'est pas dans sa volonté de guérir, eh bien, il ne donnera pas non plus la foi pour la guérison. La foi n'est pas une émotion. Oh non, c'est se reposer tout simplement sur la volonté de Dieu telle qu'elle nous est révélée dans sa sainte parole ou directement par le Saint-Esprit. Il est des personnes qui prétendent avoir la foi alors qu'elles s'appuient uniquement sur ce que dit le prédicateur. Et d'autres, comme les scientistes ou les psychiatres, substituent à la foi l'autosuggestion, se persuadant donc ainsi eux-mêmes qu'ils vont de mieux en mieux. Mais la suggestion, l'hypnotisme ou la psychothérapie ne sont nullement à comparer avec la foi en Dieu. Quand nous avons la certitude de demander une chose selon sa sainte volonté, révélé dans sa sainte parole, et que le Saint-Esprit nous confirme dans cette assurance, alors nous avons la foi véritable, celle qui est donnée de Dieu. Et en cas semblable, nous pouvons réclamer l'exaucement et nous y attendre. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et quatrièmement, chers amis, la guérison est-elle comprise dans la rédemption ? On a beaucoup discuté la question si oui ou non Christ nous a acquis la guérison de nos corps en même temps que la rédemption par sa mort sur la croix. Certains prétendent que sur la base de l'expiation, tout chrétien doit réclamer la guérison totale, tout comme il a reçu le salut instantanément par un acte de foi. Dans Matthieu 8, verset 16, nous lisons « Ce soir, on amena auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Notez bien que la citation du Nouveau Testament, inspirée par le Saint-Esprit, est plus positive encore que le verset d'Ésaïe 53, d'où elle a été tirée. Là, il est dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé au verset 5 de Saint Matthieu chapitre 8. Le prophète ajoute encore et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il serait donc insensé de contredire l'enseignement positif de ces passages. Jésus-Christ lui-même a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Faisant allusion à cette affirmation que la guérison est inclue dans la rédemption, le docteur Torrey dit ceci. « Je crois bien qu'en considérant ces versets avec leur contexte, on peut en tirer cette conclusion ou déduction. Tous les bienfaits dont nous jouissons nous sont acquis, non par nos propres mérites, mais par ceux de Jésus-Christ, achetés en quelque sorte au prix de son précieux sang. S'il est vrai d'affirmer que tout don excellent nous a été acquis par notre Sauveur, par sa mort expiatoire, alors le chrétien qui, dans le nom de Jésus-Christ, prie pour la guérison, est bien dans les lignes, c'est tout à fait dans les lignes de la volonté divine. Mais le docteur Torrey ajoute encore par la suite que nous ne recevons pas pressentement tout ce qui nous a été acquis par la rédemption. C'est déjà merveilleux d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle, mais ce n'est encore que les arts de notre héritage, et nous en recevrons davantage plus tard. Au retour de Christ, lors de la résurrection des croyants, quand nos corps seront transmués et rendus semblables au corps de sa gloire, nous hériterons, chers frères et sœurs, de tout ce qui nous a été acquis au calvaire, mais pas avant. Nous jouirons alors d'une santé parfaite, d'un corps glorifié, dont toute trace d'infirmité aura totalement disparu pour toujours. Les chrétiens ne porteront plus alors ni lunettes, ni fausses dents, ni rien de semblable. Cette santé parfaite et totale nous a été acquise à la croix, certes, mais nous n'entrerons définitivement en sa possession que au jour où notre salut sera consommé. Nul ne saurait prétendre à une guérison totale et définitive avant ce jour-là. En effet, tous ceux qui ont été miraculeusement guéris ne l'ont été que momentanément, somme toute à l'exception d'Enoch et d'Élie, qui ont revêtu d'emblée leur corps céleste dès l'instant de leur enlèvement. Oui, chers amis, tout cela est bien sérieux et cela est clair dans les Saintes Écritures, car nous lisons encore dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ou si la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?» Car la création a été soumise à la vanité avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule ou seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit-Saint, nous aussi nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous pouvez revoir cela dans Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 23. C'est donc quand même quelque chose de très sérieux. Nous comprenons par ce passage que notre salut est en grande partie dans le futur. Nous avons déjà, dès à présent, la vie éternelle, et le Saint-Esprit nous a été donné comme les arts de notre salut. Mais nous attendons encore l'adoption, savoir la rédemption de notre corps. La rédemption complète, le salut de notre corps, nous a été acquise à la croix en ce que Christ a réellement porté nos infirmités et nos maladies. Dans ce sens, la guérison parfaite est inclue dans la rédemption, mais elle fait partie de ce salut que nous recevons dès que nous nous confions en Christ. Ce n'est pas une chose à part. Et quand un pécheur se confie en Christ, il est pardonné, sauvé, sans avoir à passer par une lutte et une agonie prolongée. Il possède donc dès lors, oui, tout de suite, le Saint-Esprit comme étant les arts de son salut, alléluia, lequel esprit fait de lui un enfant de Dieu. Mais la consommation de ce salut, cette consommation de ce salut viendra lors du retour de Jésus-Christ. Et ceci à la résurrection des croyants, alors que nos corps seront changés en un clin d'œil, et ceci au moment du glorieux enlèvement des saints. C'est pas moi qui le dis, c'est la sainte parole de Dieu. Alors, seulement, nous serons en possession de l'adoption, savoir la rédemption de notre corps. Évidemment, tout cela a l'air assez difficile pour certains, et c'est pour cela que c'est pratique qu'une cassette ou un CD peut se réécouter. C'est pas merveilleux cela. Donc, l'affranchissement du péché nous a également été acquis, et ceci au calvaire, et la sainteté absolue est comprise dans notre rédemption. Cependant, nul d'entre nous n'oserait prétendre d'y être parvenu déjà maintenant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, je ne peux pas dire cela de moi, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Selon la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 8. Mais, quand le Seigneur paraîtra, la question du péché sera réglée une fois pour toutes. À présent, nous avons le pardon de nos péchés, et alors, donc plus tard, nous connaîtrons la totale éradication du péché. Nous possédons actuellement les arts du salut, mais alors, nous jouirons d'un salut total et absolument complet. Nous vivons présentement dans l'espérance de ce que nous n'avons pas encore atteint, et selon la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 8, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Il est donc vrai d'affirmer que la guérison est comprise dans la rédemption, tout comme la résurrection corporelle y est inclue. Comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous qui lui appartenons serons aussi ressuscités par le même Esprit Saint. Nous jouirons alors de la parfaite rédemption de nos corps et s'en sera fait pour toujours avec le péché, puisque nous serons devenus parfaits comme lui est parfait, c'est-à-dire notre bien-aimé rédempteur. Chers amis, contrairement à ce que disent certains évangélistes, qui sont du reste sincères, il y a des preuves que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de nous guérir. C'est un fait que la guérison est inclue dans la rédemption, mais la Bible ne nous enseigne nulle part que les chrétiens doivent exiger carrément de Dieu une santé parfaite, une guérison totale dans cette vie présente. Du reste, concernant le salut, il y a des personnes, ou même en priant pour eux des années, refusent et continuent de refuser le salut. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14, nous lisons « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. » Et c'était pas n'importe qui, Élisée. Hein? Avec Élie et Élisée, c'était dans les plus grands prophètes de ce temps-là. Et nous voyons, en lisant l'histoire, que le vieux prophète n'était pas hors de communion avec son Dieu, bien au contraire, puisque de ce lit d'agonie, il a prononcé de remarquables prophéties sous l'inspiration divine, toutes en étant atteint de la maladie dont il mourut. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20, saint Paul nous dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet. Il ne nous est pas dit que l'apôtre ait obtenu la totale guérison de son compagnon de service et rien ne nous permet de conclure que l'un ou l'autre ont été à blâmer en l'occurrence. » Dans Philippiens chapitre 2 verset 27, il est question d'Épaphrodite qui a été malade tout près même de la mort, et cela à cause de son zèle extrême pour son Christ et aussi pour son service. Ce fidèle serviteur s'est trop dépensé jusqu'à y laisser sa santé au service de son Seigneur. Et il n'est nullement, absolument pas à blâmer pour aucun péché particulier qui ait pu causer sa maladie. Nous avons enfin l'exemple classique de saint Paul et de son écharde dans la chair, laquelle, après une ardente supplication, même 3 fois répétée, lui a pas été enlevée. Selon 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Mais en lui refusant cette délivrance, Dieu a révélé à l'apôtre que ce messager de Satan, qu'il éprouvait si cruellement, devait servir dans la providence divine et à le garder humble et dépendant totalement de son Dieu. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », a répondu le Seigneur à son serviteur bien-aimé. Et il devient, par cela même, excusez-moi, un exemple édifiant pour nous tous. Donc, au lieu de continuer à supplier et à se lamenter au sujet de l'écharde, il a su changer d'attitude et adapter sa prière à la volonté de Dieu qui lui était ainsi révélée. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul comprit alors qu'en certains cas, l'infirmité vaut mieux que la santé et qu'il est parfois permis, oh oui, permis aux meilleurs chrétiens de passer par la souffrance afin que la puissance transcendante de Dieu soit manifestée dans sa faiblesse. Et c'est un fait que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Dans sa promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains chapitre 8 verset 28, la maladie elle-même peut être comprise dans ce « toute chose ». Oui, chers amis, tout cela nous montre bien, et je dois vous dire que moi-même, j'ai été malade plus de 8 ans entre la vie et la mort, plus tard même, plusieurs fois entre la vie et la mort. Et c'est uniquement par la grâce infini de Dieu que je suis actuellement debout à l'âge de bientôt 84 ans. Cela, évidemment, j'ai compris par toutes ces souffrances et ces épreuves que je me dois de servir le Seigneur jusqu'au bout. Ça, c'est mon problème. Je ne dis pas que vous devez faire la même chose. Ça concerne, dans ce sens-là, en tout cas moi en personne, et si j'ai reçu dans le cœur de le servir jusqu'au bout, c'est parce que j'ai une énorme facture envers mon Seigneur. Encore une fois, ne pensez pas que j'ai une théologie qui dit que nous sommes sauvés par les œuvres. Ça n'a rien à faire avec cela. Mais non, vous l'avez certainement compris, que je dois une grande facture parce que j'aurais dû agir beaucoup mieux que cela quand j'étais plus jeune. C'est cela que je voudrais vous faire partager et pas autre chose. Voyez-vous, tous les guérisseurs qui affirment si hardiment que tout chrétien doit jouir d'une santé parfaite se voient eux-mêmes, tôt ou tard, assaillis dans leur corps, bien souvent au détriment de leur foi et même de leur raison. La guérison parfaite est définitive tout en faisant partie de la rédemption qui nous a été acquise à la croix, ne sera vraiment notre partage qu'au jour béni de la rédemption de nos corps, au jour de la résurrection ou de l'enlèvement à la venue du Seigneur, de notre Seigneur bien-aimé. Si tous les pécheurs pour lesquels nous prions ne sont pas sauvés, pas plus que tous les malades ne sont guéris, il n'en reste pas moins vrai qu'un grand nombre de cas, dans un grand nombre de cas, Dieu accorde l'exaucement. Gloire à Dieu. Ainsi, notre tout premier devoir, c'est, à l'heure de la maladie, c'est évidemment de prier pour eux. Et ça, vous pouvez le faire. Chacun d'entre vous, si vous êtes sauvé et un enfant de Dieu, vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire. Dans ma propre expérience, j'ai réalisé parfois, après avoir prié pour un malade, que Dieu avait une bonne raison pour laisser l'épreuve se prolonger encore quelque temps, soit que le péché a entravé la guérison, ou que le chrétien malade, au lieu de regarder au Seigneur, préfère se confier au docteur et au remède. Dieu ne défend pas cela. Parfois aussi, la mondanité de notre vie, ou quelques habitudes pernicieuses, constituent l'obstacle à la guérison. Cependant, dans la grande majorité des cas, quand les croyants se sont vraiment confiés en Dieu dans l'abandon de tout péché et la recherche de sa volonté, il a accordé la guérison, ce qui est la chose normale pour le chrétien qui est dans la volonté de Dieu. Oui, chers amis, cela est vrai. Et quand Jésus guérit, ou qu'il a guéri, le paralytique de Bethesda, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. N'oubliez jamais ce verset-là. Je répète, Jésus lui a dit, voici, tu as été guéri. Alors, s'il te plaît, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Saint Jean chapitre 5, verset 14. Et quand il guérit celui qui était porté par quatre hommes à travers le toit, il lui dit tout d'abord, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et puis, il ajouta ensuite, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ou si je te l'ordonne. Au paralytique, il a dit, je te l'ordonne. Lève-toi maintenant, prends ton lit et va dans ta maison. Saint Marc chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Et cet homme a été guéri à l'instant même. Mais le pardon de ses péchés avait précédé, je répète, le pardon de ses péchés avait précédé la guérison, ce qui doit nous rappeler que la réconciliation avec Dieu est beaucoup plus importante encore que la guérison corporelle. Mais cela nous montre également que les péchés doivent être pardonnés avant que Dieu puisse, en toute justice, guérir le corps. Il nous est dit que à Corinthe, bien des chrétiens prenaient part à la sainte scène du Seigneur, parfois indignement. Ça, c'est grave, très grave. Ils avaient des divisions entre eux, et certains venaient à ce saint repas en étant même en état d'ébriété, et d'autres commettaient des péchés encore bien plus terribles. Et pour cette raison, plusieurs d'entre eux étaient tombés malades, et certains même sont morts d'une mort prématurée. Tout cela à cause de leur transgression. Et c'est pourquoi saint Paul leur écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, et ceci afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 11, versets 30 à 32. Ainsi, chers amis, la maladie, et c'est là que nous allons terminer, la maladie, souvent, pour l'enfant de Dieu, est malheureusement un châtiment du Seigneur. Pas toujours, mais parfois. Donc, tout chrétien qui souffre d'une santé précaire devrait se juger lui-même, c'est pas défendu, et simplement confesser honnêtement tous les péchés qui nous viennent à l'esprit, à la mémoire. Cela serait une très bonne chose. Nous allons terminer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, oui, je te remercie de m'avoir annoncé que tu es le Seigneur qui me guérit. Chers amis, cette prière, vous pouvez la faire pour vous, chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Aussi, répétez après moi. Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir annoncé que tu es le Seigneur, oui, tu es le Seigneur, qui me guérit. Quel bonheur de savoir que ton plan pour ma rédemption comprend la guérison physique. Avant de comprendre que la maladie, l'infirmité, la souffrance et la douleur provenaient du péché originel et de la rébellion d'Adam et Ève, je supposais que dans ma vie, il n'y avait aucune délivrance possible de la menace continuelle de la maladie. Je comprends maintenant que la nature déchue de l'homme est tellement pleine de tromperies, de rébellion, de violence et de haine, que tout son être en est affecté L'humanité n'a jamais connu que la destruction et la détériorisation de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais Seigneur, comme ton amour est merveilleux, tu n'as pas laissé l'humanité esclave de Satan. Après m'être rébellé contre toi et avoir violé tes lois de vie, je méritais de mourir. Oh, l'amour que tu as manifesté envers moi en envoyant ton fils innocent pour être la propitiation de mes péchés. Oui, Seigneur, je m'humilie maintenant devant toi et je décide de renoncer à tous les péchés dont je peux me rappeler et je les nomme devant toi maintenant en promettant solennellement d'y renoncer. Je sais que je peux maintenant bénéficier de ta grâce et de ton pardon et de ce fait recevoir la guérison dans mon corps. Je prends et reçois cette guérison par la foi et je sais et je crois que tu me l'as accordé. Je te remercie pour ta miséricorde et ton grand amour. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et vous pouvez avoir confiance qu'il exauce vos prières. Croyez-le de tout votre cœur. Et je pense à vous dans la prière. À bientôt à nouveau. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Au revoir, mes très chers amis. Au revoir.